Bonjour à tous, l'émission Patara d'aujourd'hui consacrée à la problématique du renouvellement de la classe politique en République centrafricaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous. En effet, la République centrafricaine vit depuis plusieurs années une situation politique particulière où les crises se suivent, s'entrelacent, se côtoient, mais ne se ressemblent pas. La médiocrité, la haine, la pratique du régionalisme et du clientélisme, la corruption, la manipulation, le mensonge, la prédation et les intimidations se sont érigés en mots de gestion pour les différents régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. Les sympathisants de certains partis politiques prétendant ou non à la prochaine élection présidentielle mettent en avant la haine comme mode de propagande pour discréditer leurs adversaires politiques. Depuis toujours, plusieurs voix s'élèvent pour décrire le laxisme des hommes politiques centrafricains dans la gestion de la crise politique qui s'est installée d'une part, de l'amateurisme, du manque d'un leadership véritable d'autre part, mais rien ne semble bouger. Aucune volonté de mettre le doigt sur le réel défi à relever pour ce pays en état de ruine et qui demande plus de pragmatisme. Toutes les promesses de rupture annoncées se sont révélées vaines. À chaque régime, les mêmes personnes et les mêmes pratiques, tous veulent devenir riches et s'éterniser au pouvoir et tous les moyens sont bons pour y parvenir, quel que soit ce qu'il faut faire subir au peuple. L'impatience perdure. Question, le renouvellement de la classe politique est-il possible un jour en République centrafricaine? Si oui, à quand ce moment et comment procéder? Existe-t-il des leaders courageux pour rendre ce changement possible? Quelle place réserve-t-on au peuple dans ce système de gouvernance? Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec les personnalités suivantes. Il s'agit de Dr Dominique Désiré Erenan, ancien chercheur à l'Université de Bangui, constitutionnaliste. Dr Dominique Désiré Erenan, bonjour.
Bonjour Hippolyte, bonjour chers auditeurs.
Monsieur Christian Guédébem, secrétaire national aux relations extérieures et porte-parole du KNK. Monsieur Christian Guédébem, bonjour.
Bonjour Hippolyte, bonjour à tous.
Et Monsieur Carlo Blaguet, sociologue, observateur de la vie politique centrafricaine. Monsieur Carlo Blaguet, bonjour.
Bonjour Hippolyte, bonjour à tous les auditeurs.
Je signale en passant que Monsieur Franck Urbain Saragba, député de Nangabougila et député indépendant, qui a également été invité à ce débat, mais qui malheureusement pour des soucis de santé, a marqué son indisponibilité au dernier moment. Herman Ambona à la technique, Hippolyte Marbois à l'animation.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Première question à vous, Dr Dominique Désiré Erenan. Le renouvellement de la classe politique en Centrafrique aujourd'hui n'est-il qu'un besoin ou une nécessité?
Merci, Hippolyte. Le renouvellement de la classe politique en Centrafrique aujourd'hui, c'est une question très très importante. Question importante pour la nation centrafricaine, question importante pour la jeunesse centrafricaine, question importante également pour les populations de nos différentes provinces. Moi, je commencerai par m'interroger sur le bien fondé de ce débat. Comment en est-on arrivé à poser ce débat? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on estime qu'il faut aller à un renouvellement de la classe politique centrafricaine? Et je pense que mon ami Carl Blaguet, qui est sociologue, à qui je reconnais une certaine finesse intellectuelle, peut aujourd'hui éclairer les lanternes
bien sûr,
de tous pour nous dire comment est-ce qu'on est arrivé là. Mais de prime abord, moi je pense qu'effectivement, il y a un besoin, et je dirais même plus, c'est une nécessité aujourd'hui de renouveler la classe politique centrafricaine. Mais il ne s'agit pas de faire un procès à nos hommes politiques, à ceux qu'on peut appeler peut-être « vieux » entre guillemets, parce que les vieux hommes politiques, c'est ce qu'on dit, on oppose les jeunes aux vieux. Et si on parle de renouvellement, on peut penser qu'on veut chercher à opposer les jeunes aux vieux. Mais je pense que la question fondamentale, ce n'est pas celle-là. La question fondamentale, c'est plutôt comment on en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'il faut renouveler la classe politique? Et si on parle de renouvellement de la classe politique aujourd'hui, c'est parce que quelque part, on a essayé d'évaluer l'action politique dans ce pays. On a évalué l'activité politique dans ce pays. On a évalué le combat que certains hommes politiques ont mené dans ce pays, continuent à mener pour pouvoir gérer les affaires de la nation. Et à l'aune de cette appréciation, on se rend compte que, eh bien, il y a nécessité que certains hommes politiques cèdent la place à d'autres hommes politiques, pas forcément les jeunes, cèdent la place à d'autres hommes politiques pour pouvoir venir présider aux destinées de la nation.
Merci docteur Dominique Désiré et Renan. Je confirme qu'il ne s'agit pas de faire le procès de nos personnalités politiques, des dirigeants politiques. Il ne sera pas non plus question dans ce débat d'un conflit générationnel. Nous allons juste analyser la situation et voir la nécessité justement d'en arriver à un renouvellement de la classe politique pour permettre au moins à la République centrafricaine de se hisser au rang d'autres nations. Christian Guédébem, vous êtes également un cadre de parti. Le renouvellement de la classe politique en Centrafrique aujourd'hui, pour vous, reste un besoin ou une nécessité?
Je dirais pour ma part, c'est avant tout une évolution normale des choses. Vous savez, le monde, il est fait comme ça. Les gens sont renouvelés, les idées se renouvellent également. Et comme on le dit, tout simplement, c'est que les temps changent. La République centrafricaine de 1960 n'est pas la République centrafricaine de 2018, qui elle aussi ne sera pas la même République centrafricaine qu'en 2030. Qu'est-ce que moi je veux dire par là? Dans le contexte centrafricain, compte tenu de ce que nous avons vécu, et notamment dans un passé récent, il est nécessaire, voire indispensable, que des hommes neufs. Et quand on dit des hommes neufs, c'est pas forcément, comme l'a dit le docteur Erénon, c'est pas forcément des jeunes, mais c'est des hommes avec de nouvelles idées. C'est des hommes avec une nouvelle vision, une nouvelle manière d'appréhender les choses. Après, cela peut être des jeunes, mais cela peut aussi être des gens d'une génération peut-être intermédiaire ou même certains anciens qui proposeraient un nouveau mode de gouvernance à la République centrafricaine. Parce qu'en réalité, on fait le bilan. On dit, nous avons été indépendants le 13 août 1960. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet 2018. Où en sommes-nous? On fait le bilan de tout ce qui a été fait. On se rend compte, indéniablement, et notamment depuis les 4-5 dernières années, que nous sommes en recul constant. À partir de là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et donc, il faut en changer. Ça veut dire aussi que si la classe politique telle que nous la connaissons n'a pas su se réinventer, n'a pas su proposer d'autres alternatives que celles à laquelle nous avons eu droit jusqu'aujourd'hui, nous sommes aussi, en tant que population, en droit de réclamer autre chose. Et il appartient à ceux qui estiment être des leaders, soit de se réinventer, soit de céder la place. Soit d'arriver avec une nouvelle approche, de faire la proposition de nouvelles idées et d'un nouveau mode de gouvernance pour la République centrafricaine, soit il appartiendra à des nouveaux leaders d'arriver, comme je le disais, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles pratiques, avec un nouveau programme à proposer aux Centrafricains.
Le peuple s'enlace, le peuple est impatient aussi de voir vraiment une classe politique centrafricaine renouvelée. C'est cela le message qu'on entend au quotidien dans les rues de Bangui. Aujourd'hui, en Centrafrique, à chaque régime, les mêmes personnes, les mêmes pratiques. Alors, c'est quoi le problème, M. Carlo Blaguet? C'est quoi le problème aujourd'hui? Quelle est l'analyse sociologique de cette situation?
Merci Hippolyte. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec mes deux prédécesseurs. Mais je pense qu'il faut rentrer dans le fond. Il y a une question de fond. Il faut faire la sociologie des partis politiques. En République centrafricaine, tout le monde le sait, à l'époque pré-indépendance, même post-indépendance, un leader qui crée un parti, qui se dit président fondateur, le siège du parti est dans son domicile, il finance à plus de 90% les actes du parti, donc c'est difficile de passer la main. Il n'y a pas de la démocratisation au niveau des partis politiques. Ça, c'est le premier point. Il faudrait veiller à la démocratisation des partis politiques. Comme ça, c'est un mécanisme naturel. Comme on l'a vu en France, au Sénégal et autres, à part ceux qui veulent placer leur fils. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas la démocratisation au sein des partis politiques et que le leader est le seul financier, le siège du parti appartient au leader fondateur, ça ne marchera pas. Je pense qu'il appartient justement aux institutions de la République. Je pense qu'il y avait une loi organique, 90-003-004, portant organisation des partis politiques. Je pense que les partis politiques doivent organiser leurs sessions d'une manière régulière et que le ministère de l'administration du territoire doit veiller à cela pour qu'il y ait une démocratisation, afin qu'un leader ne soit pas éternellement à la tête de son parti, bien qu'il soit fondateur du parti.
Ou encore bien qu'il soit financier de ce parti.
Bien sûr, Hippolyte.
Alors, justement, c'est l'une des pistes. Comment procéder aujourd'hui si la question de renouveler la classe politique en Centrafrique? Comment procéder? J'entends que Karl explique qu'il faut d'abord que ce ne soit pas nécessairement les financiers ou encore les présidents fondateurs qui prennent le lead de ce parti en question. Est-ce qu'il y a d'autres procédés à proposer, docteur Désiré Renon?
Il y a d'autres pistes. Pour moi, aujourd'hui, renouveler la classe politique centrafricaine, c'est avant tout, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est avant tout évaluer l'activité politique dans ce pays, évaluer l'action de nos hommes politiques au quotidien. Comme l'a dit Christian, depuis 1960, on a eu des gens qui ont géré ce pays. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Si on parle de renouvellement de la classe politique, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Vous savez, l'action politique, c'est orienté dans le sens de la satisfaction de l'intérêt général. Et l'activité politique également va dans ce sens. Mais quand vous évaluez aujourd'hui l'activité politique en Centrafrique, il y a un certain nombre de repères que vous ne pouvez pas méconnaître. Il y a d'abord un souci, je dirais, de pertinence. Est-ce que l'activité politique qui est menée dans notre pays est pertinente? D'accord? En termes de nécessité sociale, je veux dire, pertinente. Et est-ce que cette action politique, elle est cohérente? Cohérente en termes d'ensemble de moyens, ensemble d'objectifs qu'on se fixe pour atteindre un certain nombre de buts afin de faire en sorte que le peuple centrafricain, par exemple, puisse avoir un certain niveau de vie. Et il y a aussi la question de l'efficience de l'activité politique. L'efficience, c'est le coût de tout ce qu'on fait comme activité politique. Parce que la politique a un coût. Donc pour moi, c'est d'abord la pertinence, la cohérence, l'efficience de l'activité politique. C'est comme ça qu'on doit évaluer l'activité politique dans ce pays. Parce que moi, je refuse d'entrer dans un débat où on va opposer, comme je l'ai dit, les jeunes aux vieux, etc. L'activité politique, elle est faite par des hommes. Mais il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur les hommes. Il faut qu'on s'attarde d'abord sur les moyens qui sont mis en œuvre et sur l'efficacité de ces moyens. Est-ce que le dispositif politique qu'on a mis en place dans notre pays et la gestion politique qui a été faite dans ce pays vont dans le sens de l'efficacité? Efficacité, pour moi, c'est que le pays se développe, on n'a pas de problème dans le pays, le système éducatif fonctionne bien, la sécurité des Centrafricains est assurée, nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre, on n'a pas besoin d'une présence étrangère dans le pays pour garantir notre sécurité ou défendre nos institutions républicaines. Voilà ce que j'appelle la pertinence, la cohérence, l'efficience et au total l'efficacité de l'activité politique.
Alors, vu ce développement fait et au regard des différents régimes qu'on a eu à connaître dans ce pays, avez-vous le sentiment que ces éléments-là sont pris en compte par les dirigeants?
À mon avis, non. L'état du pays le démontre amplement. Aujourd'hui, si on interroge ces quatre critères que j'ai énumérés, eh bien, on peut conclure, sans risque de se tromper, que notre pays ne va pas bien. Notre pays ne se porte pas bien. D'où nécessité de changer de paradigme. D'où nécessité de revoir, de se remettre en cause. Il appartient aujourd'hui aux hommes politiques centrafricains de se remettre en cause. De constater que depuis 1960, ils ont agi. C'est bien, ils ont agi. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Est-ce que leur activité ou bien leurs actions politiques ont été efficaces? Parce que si c'est efficace, on va constater qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème dans le pays. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons trop de problèmes dans le pays.
Dans tous les secteurs.
Il faut renouveler la classe politique. Renouveler la classe politique, ce n'est pas chasser les vieux. Attention, ce n'est pas mettre une certaine catégorie de citoyens hors du champ politique. Non,
c'est révolutionner la mentalité.
La mentalité, comme l'a dit Christian, il faudrait que les gens constatent que les temps ont changé. Qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont formés, il y a des jeunes qui sont compétents, il y a des jeunes qui sont disponibles, qui sont patriotes, qui sont prêts à servir leur pays. Et qu'il faut qu'on leur fasse de la place. Mais en même temps, il ne faut pas que les jeunes attendent que ce soit les vieux qui leur fassent de la place. Parce que la politique, vous savez très bien que c'est une compétition. Quand on est en politique, c'est une compétition.
Bien sûr.
Parce qu'il y a déjà le phénomène de l'élection et l'élection, c'est une sélection. Donc si vous aspirez à gérer le pays, si vous êtes jeune et que vous aspirez à gérer le pays, au lieu de larmoyer et puis de vous complaire dans un système où vous allez attaquer à chaque fois les vieux pour dire que non, les vieux ne nous font pas de la place, il faudrait que vous-même, les jeunes, que vous vous lanciez en politique. Parce que la politique, ce n'est pas un cadeau. Il faudrait que c'est des efforts. Les jeunes ou bien la jeunesse doit se lancer en politique, doit aller aux élections. Et si les jeunes vont massivement aux élections, par exemple en 2021, et qu'ils arrivent à investir les différentes institutions, en commençant par l'Assemblée nationale, ils font élire à l'Assemblée nationale, et ils vont finir par investir les différentes institutions politiques, ils vont capter le pouvoir, et de façon collective, ils vont pouvoir gérer le pays et faire les choses différemment de ceux qui sont aujourd'hui en place et qu'on a toujours critiqué.
Mais beaucoup de jeunes, malheureusement, pensent que leur place n'est pas en politique, leur place c'est dans les institutions bancaires, c'est dans, dans l'enseignement.
Mais ils ont raison. Ils ont raison. Il faut de tout pour faire un monde.
Oui.
On a besoin des politiques, on a besoin des banquiers, on a besoin des enseignants, on a besoin des sportifs,
des
a besoin des militaires.
De la société
civile. on a besoin aussi des journalistes comme Hippolyte Marbois pour nous réunir autour du micro. Mais la réalité, c'est laquelle? La réalité, c'est que moi, je voulais d'abord faire une précision sur la sociologie des partis politiques, telle qu'avait été soulevée par
Carole Gaquet. Oui.
Ce qu'il a dit n'est pas entièrement faux. Il faut reconnaître qu'en Centrafrique, nous avons toujours tendance à lier nos partis politiques et leur destinée à la personne du fondateur. Mais dans ces partis-là, il existe quand même une certaine émulation et qui peut partir du bas. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent plus ou moins mon parcours, ils savent qu'il y a 15 ans, il y a 14 ans, lorsque je me lançais en politique avec d'autres, j'ai commencé comme un simple militant. Je n'étais pas porte-parole du parti. D'abord, le KNK n'existait pas à l'époque, mais je n'étais pas le porte-parole du président Bozizé. je n'étais que un militant, membre de la coordination des étudiants de l'université de Bangui pour le soutien à la candidature du général Boïse. Et là, c'était déjà en 2004. Nous étions de ceux qui avions organisé les marches. Quel était le pouvoir que j'avais au sein de son appareil politique à l'époque ? Aucun, si ce n'est que celui de contribuer au sein de l'université. Mais nous avons milité, nous nous sommes engagés. Et c'est là où je rejoins ce qu'a dit le docteur Erénon. Il faut que ceux qui aspirent ou ceux qui prétendent au renouvellement, ceux qui veulent proposer autre chose, mais il faut maintenant se jeter à l'eau. Et c'est en ayant fait tout ce travail qu'aujourd'hui, Christian Guenebem est devenu, parmi les principaux cadres du bureau politique du KNK, le plus jeune. C'est moi le plus jeune membre du bureau politique. Aujourd'hui, en étant le plus jeune, je ne suis pas le moins responsabilisé. Je suis secrétaire national aux relations extérieures et porte-parole du KNK, qui n'en demeure pas moins le parti du président François Bozizé. Vous comprendrez bien que ça, on ne me l'a pas donné. Je me suis battu pour arriver là. J'ai été, comme l'a dit Dr Erénon, à des élections en interne. J'ai participé à des débats en interne et je me suis battu pour faire valoir mes idées au sein du parti, tant et si bien que j'ai pu gravir les échelons de ce parti. Aujourd'hui, en étant dans la classe dirigeante de mon parti, j'aspire à être dans la classe dirigeante de mon pays. J'étais récemment candidat aux élections législatives. Je le serai à nouveau. Je peux vous le dire dès
2021.
À présent. Oui, bien entendu.
C'est pas une campagne, hein.
Déclaration de candidature.
C'est pas une campagne, d'accord. Mais c'est dire que quand on prétend vouloir faire évoluer les choses, on ne peut pas le faire dans son salon. On le fait en étant sur le terrain. On le fait en amenant des idées. Alors, ceci étant dit, tout le monde n'est pas fait pour la structure des partis politiques. Il y a des gens qui doivent évoluer en indépendant. Je prendrai le cas du député Sahagba qui, malheureusement, est souffrant, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, n'appartient pas à une formation politique, mais appartenait à un groupe, d'ailleurs, qui a combattu le président Boïse à l'époque. Ça, c'est une parenthèse. Mais c'est un groupe qui proposait des idées, qui n'était pas d'accord avec la manière dont nous gérions le pays à l'époque. Et ce groupe-là, aujourd'hui, continue d'exister, s'est manifesté à travers non seulement lui à l'Assemblée nationale, mais il y a d'autres personnes. Et ce groupe-là propose une alternative. Donc il y a le cadre formel des partis, il y a les indépendants, il y a les associations et mouvements politiques, il y a la société civile. Détrompez-vous. Et là, je vais parler aux sociologues, mais également aux professeurs d'université qui, je pense, ne me contrediront pas. La société civile est un acteur politique à part entière. Le fait de ne pas avoir de position partisane, c'est aussi une position. Même en politique, la neutralité est une position de combat. De combat d'idées et de combat politique. Alors, donc, il faut que les gens comprennent bien.
Il y a une logique claire, que voilà, il y a le phénomène de déclaration des candidatures, il y a des gens qui sont motivés à intégrer la politique. On sait, mais qu'est-ce qui explique ce phénomène-là qui fait que voilà, les différents régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays ne réussissent pas à l'élever au même niveau de développement que les voisins immédiats.
Oui.
Je vois le Cameroun, je vois le Congo-Brazzaville,
oui,
je vois
oui.
Même le Tchad qui était loin après nous aujourd'hui semble se démarquer mieux que nous. Comment expliquer ce phénomène ?
Non, en fait, il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération. Il y a d'abord l'élément endogène et l'élément exogène. Vous savez, quand on fait de la politique, c'est aussi en tenant compte d'un environnement. En République centrafricaine, notre environnement, au plan national, il est d'abord pollué par des mauvaises habitudes. Notre environnement national est pollué aussi par des mauvaises conceptions. Aujourd'hui, Christian Guenebem, il devient président de la République. Quel est le premier réflexe ? Le premier réflexe, c'est de s'entourer de ses parents, de s'entourer de ses amis, de s'entourer de ses collègues, et parfois au détriment
des compétences,
au détriment du résultat. On a parlé tout à l'heure de la pertinence, de la cohérence et de l'efficience dans la politique qu'il faut mener pour obtenir les résultats. Et malheureusement, nous constatons qu'en République centrafricaine, sur un plan intérieur, nous ne faisons pas toujours ou pas suffisamment l'effort de réunir ces critères. Ensuite, vous allez constater aussi que mais nous avons érigé la haine comme critère de sélection principale. C'est-à-dire que celui qui est différent. Aujourd'hui, on nous a même rajouté un clivage supplémentaire. Après les clivages tribaux, régionaux et autres, on nous a rajouté le clivage communautaire et religieux. Vous voyez ? Donc, dès qu'il y a une différence en Centrafrique, on a tout de suite le réflexe de rejeter. Et donc, pour ceux qui prétendent au même titre que nous, apporter une nouvelle offre politique, il faut déjà dépasser ce clivage-là et faire un travail d'abord sur nous-mêmes, ensuite de sensibilisation vers ceux-là que nous pensons devoir nous suivre. Le deuxième aspect, il est exogène. Je le disais, en politique, on fait de la politique aussi en tenant compte de l'environnement. Il y a l'environnement au plan national, mais il y a l'environnement aussi au plan international. Vous constaterez qu'il y a beaucoup trop d'ingérence en République centrafricaine dans la politique que nous menons. Je vais donner un exemple simple. Madame Samba Panza, chef d'état de transition, a subi toutes les pressions possibles et imaginables pour nommer une personnalité de ce pays au poste de Premier ministre. Quand elle a dit non, nous avons tous été témoins de ce qui est advenu par la suite. Les complications dans les relations qu'elle a eues avec certains États de la sous-région et même avec certains hauts dignitaires d'un pays ami qui, entre autres, n'est autre que notre ancienne puissance coloniale. Alors là aussi, on ne peut pas dire qu'on va faire de la politique en toute innocence, en ignorant ces paramètres-là.
Oui, j'entends, il y a cet élément d'ingérence, mais est-ce que cela n'est pas dû quand même à la faiblesse même de ces dirigeants? Est-ce que si on avait le leadership qu'il fallait, est-ce qu'on ne pouvait pas faire face à cette ingérence?
C'est pour ça que dans l'ordre des problèmes présentés, j'ai commencé par les problèmes en interne. Vous savez, quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est facile. Ici, en Centrafrique, on a l'habitude de toujours accuser la France. Oui, c'est la France qui a fait ceci, c'est la France qui manipule. Mais les Français qui viennent manipuler ici, ils ne manipulent pas d'autres Français. Ils manipulent bien des Centrafricains. C'est qu'en premier lieu, il y a des Centrafricains qui prêtent le flanc à la manipulation venue de l'extérieur. Aujourd'hui, on a cité la France parce que c'est le thème favori que les gens aiment développer dans les rues. Mais ça peut aussi bien être les États-Unis, la Chine, la Russie, le Congo, le Tchad, etc. C'est-à-dire que toute influence venant de l'extérieur doit bien trouver un terreau fertile pour pouvoir s'implanter. C'est-à-dire des Centrafricains qui vont vouloir contribuer à ça. Et parler de renouvellement de la classe politique, c'est aussi parler de patriotisme. Parler de nouveaux dirigeants ou de nouvelles visions de ceux-là qui, demain, face aux ingérences ou aux pressions venues de l'extérieur, privilégieront d'abord l'intérêt national.
Merci, Christian Guénébé. Monsieur Carlo Blagué, aujourd'hui, c'est vrai, il y a deux éléments fondamentaux que Monsieur Guénébé a évoqués, hein, les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Aujourd'hui, nous avons quand même un Parlement qui est censé contrôler l'action des dirigeants, l'action du gouvernement. Est-ce que ce Parlement est-il aussi efficient, hein, pour ne pas prendre le terme docteur Ereno, ou efficient, efficace pour pouvoir mieux exercer ce rôle-là de contrôle sur l'exécutif pour permettre à ce que, voilà, que l'exécutif s'assume et qu'on ait des leaders compétents à la hauteur de leurs tâches.
Non, je ne suis pas trop sûr, Hippolyte. Comme vous l'avez si bien décrit dans votre préambule, hein, la médiocrité, la haine, la pratique du régionalisme, du clientélisme et surtout la corruption et la manipulation ont fait leur nid dans le Parlement, dans la plupart des institutions. Je vais essayer de reprendre le président Barack Obama qui disait « Pour qu'un État soit fort, il ne faut pas qu'il y ait des hommes forts, des hommes politiques forts, mais plutôt des institutions fortes. Mais qui fait la force des institutions? Ce sont ces hommes qui se font élire à l'intérieur de ces institutions. Et rien qu'à voir justement ce qui se passe au niveau du Parlement centrafricain, je vais être très sincère avec vous. Hein.
Bien sûr, avec le peuple centrafricain qui nous écoute.
C'est un secret de polichinelle quand on dit que non, quand il y a des élections, il y a tant, il faut distribuer des enveloppes, il faut qu'il y ait des intimidation et autres. Non, franchement, ça prouve la bassesse de notre Parlement. Le Parlement, en principe, qui devait être une institution très forte, capable justement de réguler les actions du gouvernement, capable de sanctionner les actions du gouvernement, et pourtant ce Parlement, justement, est à la trappe du gouvernement. C'est comme si c'était le gouvernement l'institution la plus forte par rapport au Parlement. Je peux titiller peut-être mon frère Christian, mais ça c'est mon opinion. Je ne pense pas que nous ayons un Parlement assez fort pour réguler, contrôler, influencer, si possible sanctionner l'action du gouvernement. Sinon pas, il y a eu un certain moment, il y a eu une crise entre le chef du Parlement et le chef de l'exécutif. Je ne sais pas comment cette crise...
Je voudrais qu'on ne perde pas de vue que nous parlons d'une situation globale, depuis plusieurs régimes qui se sont succédés jusque-là.
Mais c'est la même méthode, justement.
Parlements également.
Effectivement, je ne parle pas de l'actuel régime, je parle de tous les régimes qui se sont succédés. On a vu depuis les indépendances et surtout le régime Patassé et autres, quand on a commencé à élire les députés, parce qu'à un moment, on nommait les députés. À partir de 1993, quand il y a eu les élections législatives, il y a eu des députés qui se faisaient soudoyer. C'est un exemple que je donne par rapport à la faiblesse de nos institutions.
Tout à fait. Ouais. Merci, M. Carlo Blagué. Justement, sur la même question aujourd'hui, on a un Parlement. On en a toujours eu dans cette République. Le Parlement en soi encore, est-ce qu'on peut dire qu'il est crédible du moment où on a toujours raisonné en termes de majorité parlementaire, ce qui sous-entend une certaine complicité avec l'exécutif. Docteur Ereno, est-ce qu'on peut, en République centrafricaine, espérer compter sur le Parlement pour réguler l'action de l'exécutif?
Écoutez, on est dans un régime de séparation des pouvoirs. Nous sommes dans un régime parlementaire. Nous avons l'exécutif, nous avons le législatif et puis le judiciaire. Même si aujourd'hui on constate que le Parlement ne fait pas le travail auquel nous sommes en droit de nous attendre, eh bien, on peut penser quand même que nous sommes dans un État où il y a la séparation des pouvoirs. Mais, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est l'efficacité qui compte. Il ne suffit pas de mettre en place des institutions. Nous avons un chef de l'État, nous avons un Premier ministre, nous avons un gouvernement, nous avons un Parlement. Ils agissent, ça se voit. Mais moi, en tant que citoyen centrafricain, je ne me contente pas de savoir que j'ai un chef de l'État. Je ne me contente pas de savoir que j'ai des députés, que nous avons des députés, nos représentants à l'Assemblée. Je ne me contente pas de savoir que ces gens-là se meuvent, qu'ils agissent. Moi, ce qui m'intéresse en tant que citoyen centrafricain, c'est d'abord de savoir si effectivement, ceux que nous avons sélectionnés là, parce que j'ai dit l'élection c'est une sélection, nous avons sélectionné un certain nombre de citoyens que nous avons mis à la tête du pays. Ils sont en train de travailler, mais ce qu'on doit rechercher en premier lieu, c'est de savoir si le travail qu'ils font va dans l'intérêt de la population. Est-ce que c'est efficace ? Efficace en termes de sécurité ? On travaille pour ramener la sécurité dans le pays, mais est-ce que ce travail-là est efficace? Est-ce que les choix politiques qui sont faits dans le domaine de la sécurité, les choix qui sont faits dans le domaine économique, les choix qui sont faits sur le plan diplomatique pour lutter contre l'isolement progressif qu'on constate aujourd'hui de la République centrafricaine, est-ce que ces choix-là sont des choix efficaces? Est-ce qu'on obtient les résultats escomptés?
Quand on va à l'hôpital, est-ce qu'on est bien soigné? Quand on va à l'école, est-ce qu'on apprend bien?
C'est ça l'action politique et c'est ça l'efficacité de l'action politique. Il ne suffit pas d'avoir des hommes politiques qui se targuent d'une certaine légitimité. Moi, je suis élu, donc j'ai une certaine légitimité. Moi, j'ai une autorité parce que la Constitution me confère cette autorité. Mais ça ne suffit pas. Au bout, qu'est-ce qui compte? C'est la situation du peuple centrafricain. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Mais maintenant, pour aborder la question de façon holiste, c'est-à-dire de façon globale, aujourd'hui, si on regarde un peu, on interroge notre histoire, l'histoire politique, l'histoire institutionnelle, l'histoire constitutionnelle également, vous allez vous rendre compte que, certes, on a mis en place un système démocratique et chacun des hommes politiques se revendique de la démocratie dans notre pays. Mais quand vous essayez d'analyser l'histoire politique institutionnelle de la RCA, vous vous rendez compte qu'on a toujours agi aux antipodes de la démocratie. Je prends un exemple.
Comment?
Je vais vous le dire. La démocratie n'admet pas une sorte d'exclusion. Et pour parler du renouvellement de la classe politique, on sait très bien que dans ce pays, les jeunes, la jeunesse, et j'ajouterais même les femmes, ont toujours été en marge politique. Ils n'ont pas joué les rôles qu'ils pouvaient jouer dans ce pays. Ils sont toujours tenus à l'écart. C'est-à-dire que dans notre pays, la politique, c'est l'affaire des vieux. Personne ne peut me démentir. En fait, un jeune ne peut pas se lancer en politique.
Mais est-ce qu'ils ne se sont pas naturellement exclus?
Et il y a un point sociologique qui est là. Karl Blaguer va me démentir si je ne dis pas la vérité. Il y a un point sociologique. Le point sociologique, c'est quoi? Vous êtes jeune? Vous ambitionnez de vous lancer en politique, eh bien, vous devez taire votre ambition politique. Parce que tout simplement, le poids sociologique en Centrafrique est tel qu'un jeune ne peut pas devancer son père. N'est-ce pas, Christian Guénébem? Moi, aujourd'hui, je vous vois mal candidat du KNK tant que le président Bouzizé n'aura pas décidé de passer la main. Or, sous d'autres cieux, normalement, vous, au sein du KNK, en tant que militant, vous pouvez avoir la possibilité d'aller même aux élections primaires contre votre président. Et après, ce sont les militants qui vont choisir.
Tout à fait.
Mais, d'un point de vue pragmatique, aujourd'hui, je sais très bien que cela n'est pas du tout possible. Laisse-moi terminer.
Non, merci de m'avoir lancé sur ce point.
Oui, mais après,
tu auras l'occasion de rebondir.
Oui, oui. Donc, le poids sociologique est tel qu'aujourd'hui, les jeunes, parfois, ils ont des ambitions, mais ils sont obligés de se taire. Ils sont obligés de se cacher, de rester dans l'ombre, alors qu'ils peuvent apporter quelque chose à leur pays. Parce que s'ils se lancent en politique, cher Hippolyte, on va les traiter de traîtres. Voilà ce jeune-là que nous avons aidé. Voilà ce jeune-là que nous avons amené dans le parti. Aujourd'hui, il est en train de faire des actions subversives. Il veut maintenant prendre la place du chef.
Et
ça ne passe pas. Et c'est très mal vu. Vous savez, d'un point de vue sociologique, c'est très mal vu. Ouais. Qu'un jeune, quand bien même il dispose d'un certain nombre de qualités, il ne peut pas se lancer en politique parce que s'il le fait, il est très mal vu et il est perçu comme un traître. Il y a la question du renouvellement dont vous avez parlé là. Le renouvellement, comme je le disais, quand vous regardez la classe politique centrafricaine aujourd'hui, depuis l'indépendance, c'est comme s'il y a une sorte de gérontocratie qui est installée dans notre pays. La gérontocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir entre les mains des vieux, des personnes les plus âgées, n'est-ce pas? Et c'est la réalité aujourd'hui. Le pouvoir est entre les mains des personnes les plus âgées. Et quand le pouvoir est entre les mains des plus âgés, c'est pour dire quoi? Il y a une sorte d'exclusion qui ne dit pas son nom. L'exclusion, c'est quoi? L'exclusion de la jeunesse. Gérontocratie, les plus âgés ont le pouvoir. Quid des jeunes? Quid des femmes? Eh bien, c'est une sorte d'exclusion. Lorsque les jeunes ne participent pas à l'exercice du pouvoir, lorsque les femmes ne participent pas à l'exercice du pouvoir, et vous allez convenir avec moi que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais le peuple, ce n'est pas seulement les personnes les plus âgées. N'est-ce pas, cher Karl Blaguer?
Oui.
La démocratie, c'est à la fois les personnes les plus âgées, c'est à la fois les jeunes, à la fois les femmes. Depuis, on a eu juste une femme qui a été Premier ministre. Et du temps de l'empereur Bokassa, qui l'a nommé le 1er janvier 1975. Et la première fois qu'on a créé le poste de Premier ministre dans ce pays, c'est une femme qui l'a occupé.
Oui, docteur
avec
Renaud.
Le décret de Bokassa. Et depuis, plus rien. Plus de femmes Premier ministre, plus de jeunes Premier ministre, aucun jeune Premier ministre dans ce pays. Pas de jeunes au poste clé. On les envoie toujours au ministère de la jeunesse.
D'accord. Mais il y a un élément quand même que je voudrais bien relever.
C'est pour ça qu'on peut parler de gérontocratie dans ce pays.
Oui.
Donc, démocratie, c'est textuel. C'est dans la Constitution, oui. Mais en pratique, c'est la gérontocratie parce que le pouvoir est entre les mains des plus âgés. Il est temps que les gens changent.
Est-ce que cela
et comprennent qu'il y a des jeunes qui sont capables de servir ce pays
pas pour concurrencer ou bien pour aller contre les vieux. Faire de la politique, c'est servir son pays. Ce n'est pas aller à l'encontre des vieux ou bien s'attaquer aux vieux, etc.
Est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème d'ordre économique qui exclut ces jeunes-là, justement? Est-ce que, voilà, ils n'ont pas le pouvoir économique? Est-ce que cela ne justifie pas leur exclusion un peu ou le fait qu'ils soient en marge de la gestion de la chose publique?
Ce n'est pas le pouvoir économique qui détermine la politique. Le pouvoir politique, il est différent. Vous pouvez ne pas avoir des moyens. Vous vous lancez en politique. Vous êtes peut-être 3 ou 4. Vous vous fédérez. Vous menez des actions. Vous allez drainer d'autres personnes qui vont croire en vous, croire à vos idées. Et la politique, c'est d'abord les idées. Si vous avez des idées meilleures pour votre pays, eh bien, vous pouvez fédérer des gens autour de ces idées. Parce que chez nous, on considère que non, la politique, c'est l'affaire de ceux qui ont de l'argent. Non, la politique, c'est d'abord les idées. Les idées et un projet. Les idées et un projet. Une fois que vous avez un bon projet, vous avez de bonnes idées, eh bien, vous pouvez fédérer les gens du nord au sud.
De l'est à l'ouest.
De l'est à l'ouest. Et vous constituez une équipe. Vous construisez une équipe pour vous lancer à la conquête du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est quelque chose de collectif. Dans sa conquête et même dans sa gestion, c'est quelque chose de collectif. Merci. Ça n'a rien d'individuel.
Merci, docteur Dominique Désiré Renaud. Monsieur Christian Guénébem, un homme politique contemporain d'ailleurs, a écrit très récemment, je cite, « Si les Centrafricains sont en plein dans ce chaos, c'est parce qu'ils ont manqué de vision. » N'est-il pas vrai que nos dirigeants manquent réellement de vision?
Sur cette question... Manque de vision? Non. Tout homme politique a une vision. Mais non, peut-être pas la bonne vision. C'est ça que moi je dirais. La vision, elle a été expliquée. Je parle dans un cas récent. Nous sommes allés aux élections et le résultat des élections générales, c'est qu'un président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a été élu. Il a expliqué sa vision. Il y en a qui peuvent dire que sa vision est bonne, d'autres diront qu'elle est mauvaise, certains ne vont pas la partager. Mais dire que nos hommes politiques n'ont pas de vision, ce n'est pas vrai. Je suis un homme politique, moi, Christian Guénébem. J'ai une vision, mais peut-être que ma vision ne peut pas être partagée par le docteur Erénon. Peut-être que ma vision... Non, c'est pour répondre de manière très claire à votre question.
Oui,
je ne pense pas que les hommes politiques centrafricains manquent de vision, non.
Alors, mais je dis que... Quelle est alors la cause du sous-développement?
Non, je dis... Mais je vous l'ai expliqué. Je vous ai dit que, de mon point de vue, les choses ont été mal faites. On a fait un bilan. 1960-2018, quel est le résultat? Le résultat est mauvais. Ça veut dire que les pistes que nous avons empruntées, les voies que nous avons décidé de suivre, n'ont pas été les bonnes et ne nous ont pas amenés à bon port. Maintenant, ça c'est la réponse à cette question. Je suis obligé de rebondir sur deux éléments qui avaient été dits tout à l'heure. Le premier par Karl Blaguet. Vous savez, ne méconnaissons pas le système politique que nous-mêmes avons mis en place librement par référendum lorsque nous avons adopté la constitution du 30 mars. Peut-être que cette constitution, nous trouverons à l'avenir des passages sur lesquels revenir. Mais nous l'avons adopté librement. Et ce système, quel est-il? C'est celui de la démocratie pluraliste et majoritaire. Donc quand on dit le Parlement, le système de la majorité, non, mais c'est la loi fondamentale qui le dit. La loi fondamentale veut à ce que quand un groupe de personnes constitue une majorité, se mettent ensemble pour gouverner. Maintenant, nous sommes en train de vivre ce système. Peut-être nous dirons que ce système est bon, peut-être nous dirons
peut-être
qu'il n'est pas bon.
Peut-être qu'il a montré ses limites.
Mais il faut.
Il est question de changer de paradigme.
Il appartient maintenant au journaliste Hippolyte Marbois de créer un groupe de pression autour de cette idée et de mener la campagne politique pour un changement.
Ça va aller.
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle apporter une autre vision. C'est ça qu'on appelle aussi le renouvellement de la classe et des idées. Parce qu'il y a eu une catégorie de personnes qui ont rédigé cette constitution en pensant qu'ils écrivaient une loi fondamentale qui était bonne. Aujourd'hui, si, avec l'épreuve du temps et avec la réalité du terrain, on se rend compte que ce texte a des failles, il faut se battre politiquement pour que ça change. Deuxièmement, la question de passer devant le président Bouizé au sein du KNK. Non, mais c'est une question...
mais c'était juste un exemple
mais
banal.
Mais cet exemple est bien donné. Cet exemple est bien donné. Et je vais répondre en disant, il y a avant tout une question d'opportunité. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne fait pas de la politique pour s'amuser. On fait d'abord de la politique pour gagner les élections. Pour que notre idée, celle que nous avons forgée, celle que nous avons mûrie pour la République puisse être mise en œuvre, il faut d'abord gagner les élections. Et gagner les élections, c'est plus facile en ayant François Boisé comme candidat que Christian Guénébem.
Aujourd'hui, mais pourquoi alors?
Non, mais tout simplement parce que je vous dis que à l'heure où nous parlons, il présente aux yeux de la population centrafricaine plus d'atouts que moi.
Ça, c'est selon vous. C'est peut-être selon vous.
Non.
Et votre lecture n'est pas celle de tout le peuple centrafricain.
Je dis, nous avons le sociologue ici et nous pouvons faire toutes les études que nous voulons. Nous pouvons même commander une enquête d'opinion. Commander une enquête d'opinion. Et vous vous rendrez compte que pour ma personne, en tant que leader ou acteur politique, l'opportunité d'une candidature au sein de mon parti en face du président Boïse n'est pas venue. Je vais vous dire tout simplement, ce n'est pas dire que moi aujourd'hui je ne peux pas me déclarer candidat du KNK à une quelconque élection.
Mais moi j'ai raisonné en termes de faculté, hein. C'est-à-dire voilà. La faculté que quelqu'un
La faculté, je l'ai. Mais moi j'ai fait la précision que quand on va aux élections, il y a aussi la question de l'opportunité qu'il faut ajouter à la faculté. Ouais. Parfois, face à certaines situations ou dans certains cas de figure, il est plus opportun d'adopter telle ou telle attitude. Et c'est ça la vérité.
Est-ce que ce raisonnement développé par Christian Guédébem n'est-il pas justement la démonstration de l'exclusion de fait, hein, de la jeunesse elle-même ou encore d'une certaine classe d'accéder à la gestion de la chose publique?
Le poids sociologique, je vous l'ai dit, il est réel. Le poids sociologique dans ce pays, il est réel. Maintenant, c'est vrai qu'en politique, quand on est candidat, qu'on est choisi par un groupe, ça veut dire qu'on considère que vous qui avez été choisi pour être candidat, vous êtes le mieux placé pour faire gagner le groupe que vous représentez, n'est-ce pas? Mais moi, je raisonne ici en termes de faculté pour les jeunes de pouvoir être candidats contre ce que nous appelons dans notre pays la classe politique vieillissante. Il est pratiquement impossible à un jeune de se lever au sein des partis et de dire qu'il veut être candidat, sachant que le candidat naturel, c'est le leader du parti politique. Quand vous le faites, on vous perçoit comme un traître, on vous perçoit comme quelqu'un qui est pressé, que vous allez trop vite en besoin, que attendez votre tour, vous êtes encore très jeune, laissez la place aux vieux, non, votre tour viendra, etc. Et on vous considère comme un jeune loup. Et un loup, vous savez, un loup, c'est dangereux. Un loup, c'est dangereux. Oui, les jeunes loups. Quand vous avez des ambitions, vous avez un certain appétit.
Les jeunes loups, dents longues.
On dit de vous que vous êtes un jeune loup.
Aux dents longues.
Il paraît que même à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de jeunes qui occupent des fonctions là-bas. Mais il y a des hommes politiques qui les qualifient de jeunes loups. C'est-à-dire qu'ils sont dangereux pour eux.
Alors, ils les inquiètent. Merci, docteur Dominique Désiré Renan, monsieur Carlo Blagué, prédation régionalisme, clientélisme, amateurisme, arriviste. J'allais dire, la liste est exhaustive. Voilà ce qui caractérise les différents régimes qui se sont succéder à la tête de ce pays. Que répondez-vous justement à ceux qui disent qu'en RCA, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a que des aventuriers politiques?
Vous savez, il y a une petite citation, Hippolyte, de Karl Marx, qui dit « De la théorie, on passe à la méthode et de la méthode, on instaure un système. » Je pense que la méthode utilisée par tous nos hommes politiques depuis les indépendants jusqu'à maintenant, comme l'a dit mon frère Christian, c'était une mauvaise méthode. Sans ça, tous ces qualificatifs, prédation, régionalisme, clientélisme, etc., auraient disparu du vocabulaire politique de la République centrafricaine. Au niveau ethno-anthropologique, nous avons cette histoire de chefferie. Il y a toujours le chef qui est là. On ne peut rien faire sans le chef. Un. De deux, le tribalisme. Même dans tous les pays du monde, je pense que Jacques Chirac, qui est issu de la Corrèze, a nommé sa fille Claude Chirac, conseillère à la communication, a nommé plein de gens de sa région. Donc c'est un mécanisme naturel. Mais en ce qui nous concerne en République centrafricaine, nous avons exagéré. Les gens se sont focalisés sur un cercle restreint, purement clanique et clientéliste, qui, au bout du temps, s'est effrité. Nous avons assisté d'une manière obligatoire à des gouvernements d'union nationale qui n'étaient pas, justement, de la volonté des leaders, hein, par rapport au contexte, hein, qui a dégénéré.
Gouvernements de large ouverture.
Voilà.
On entend de noms, justement.
Justement, on en est arrivé jusqu'à là. Même au niveau de l'armée nationale aussi, il faudrait qu'il y ait des réformes. Alors, vous dites que... Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'hommes politiques, mais que des aventuriers politiques? Tous les hommes politiques ne sont pas que des aventuriers politiques, Hippolyte. Il y a eu des hommes politiques qui ont servi de manière sérieuse.
De manière intègre.
Intègre leur pays. Ouais. Je prendrai l'exemple même de mon défunt père, Alphonse Blagué, qui est mort pauvre. Mais c'est un homme politique. Quand on cite le nom Blagué, on ne dira pas que c'est un aventurier politique. On ne dira pas que c'est un prédateur politique. Et il y en a tant d'autres. Donc il y a eu des hommes politiques, mais dommage qu'ils ont été exclus. Ils ont été exclus. Et je discutais avec le professeur Ibader Thiam, un grand ministre et un grand homme de culture du Sénégal, qui me disait, mais vous avez des intellectuels en Centrafrique, mais pourquoi on ne les voit pas à l'épreuve? Pourquoi on ne les utilise pas? Mais il y a tout le temps des cliques, une clique d'aventuriers qui s'accaparent du pouvoir et qui foutent la merde en République centrafricaine. Moi, j'ai eu la chair de poule. Nous avons des hommes politiques crédibles en République centrafricaine, Hippolyte, mais on ne les utilise pas. Et même quand il y a le chef de l'État qui prend le pouvoir, je pense qu'il y a un rideau, il y a une bande noire, il y a une clique qui s'arrange justement à éviter que cet homme politique proche d'eux utilise ou ne mette à côté de lui des hommes intègres. C'est ça qui tue la République centrafricaine.
Des hommes politiques intègrent des hommes d'État. En un mot, vous confirmez qu'on en a en Centrafrique, docteur Ereno?
Il y a quelques-uns, mais je ne peux pas me permettre de les citer, au risque de frustrer les autres. Vous savez très bien, hein, on a vite fait de dire, ah, s'il cite tel, c'est parce qu'il estime que tel autre n'est pas bon. Ah. Moi, je ne vais pas me lancer dans ce jeu, mais je pense que dans notre pays, comme l'a dit Karl Blagué, il y a des gens intègres, il y a des gens compétents. Qu'il s'agisse même des vieux, qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse des femmes, il y a des gens compétents dans ce pays, à Bangui, en province et même à l'extérieur. Mais on ne leur fait pas de la place.
On ne leur fait pas de la place. Si vous voyez bien, c'est on perpétue les pratiques du passé. C'est les mêmes choses qu'on renouvelle. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Aujourd'hui, si on veut renouveler la classe politique, il faudrait qu'on aille jusqu'à interroger les expériences. Ah, voilà le fameux mot. Je l'ai lâché enfin. Les expériences. Dans ce pays, vous ne pouvez rien faire si on ne vous reconnaît pas un certain nombre d'années d'expérience. En politique surtout. Parce qu'on estime que ce jeune-là, il vient de sortir de l'université, il vient de sortir de l'école. Bon, il faut qu'il fasse ses preuves. Mais pour faire ses preuves, il faudrait qu'il y ait une première chance. Il n'y a jamais la possibilité de faire ses preuves lorsqu'on ne vous accorde pas une première chance. Et la première chance, c'est l'emploi. Dès que vous avez votre premier emploi, vous, en tant que jeune, vous avez la possibilité de démontrer ce dont vous êtes capable. De démontrer ce que vous pouvez faire pour la société. Au quotidien, à travers les dossiers que vous traitez, est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous avez les connaissances, certes, mais est-ce que quand on vous confie un dossier avec un cas précis, un cas pratique, est-ce que vous êtes capable de traiter ce dossier-là de façon efficace et faire en sorte que le travail avance dans le service? C'est ça qu'on doit regarder. On ne doit pas chercher à dire non, pour recruter tel ou bien pour nommer tel, il faudrait qu'on essaye de vérifier s'il a déjà 10 ans ou 15 ans d'expérience dans la politique. Mais vous savez, il y a des gens qui sont vieux de 40 ans d'expérience politique, mais leurs expériences ont été des expériences négatives. Mais c'est des expériences négatives.
Et on continue
à leur faire confiance. On continue à les nommer, à les renommer, à leur faire confiance, à les nommer ambassadeurs, à les nommer ministres, à les nommer premier ministre, à les nommer, c'est pas moi, président des institutions républicaines. Et pourtant, vous avez d'autres catégories de citoyens qui sont là, qui sont compétents, qui sont disponibles, moins expérimentés en termes de combat politique, mais ils ont les connaissances qu'il faut et ils peuvent faire quelque chose pour le pays. Pourquoi ne pas les utiliser? Moi, je considère qu'aujourd'hui, le critère d'expérience en matière politique ne tient plus. Il y a des gens à qui on fait confiance, même s'ils ont 30 ans, 32 ans ou 35 ans. La jeunesse est jusqu'à 35 ans. Aujourd'hui, même en Centrafrique, même si vous avez 40 ans ou 45 ans, on considère que vous êtes encore jeune. Attendez un peu, vous êtes encore jeune. Laissez la place à vos vieux, etc.
Il y a déjà cet obstacle, il y a ce mur-là qui s'oppose à toute idée de révolution. Croyez-vous encore possible ce renouvellement, ce changement de paradigme
le renouvellement.
Il y a des générations spontanées. Hein.
Oui, le renouvellement est possible. Pour peu que les jeunes décide de se lancer. Et moi, j'ai dit qu'on parle de renouvellement de la classe politique. Il ne faut pas se focaliser sur la jeunesse et opposer la jeunesse à la classe dirigeante. C'est pas moi qu'on considère comme la vieille classe politique dirigeante. Non, il faut qu'on parle de la jeunesse, mais il faut aussi qu'on parle surtout des femmes. J'ai dit tout à l'heure que Bokassa a été celui qui a créé le poste de Premier ministre le 1er janvier 1975. Et en créant ce poste, il a immédiatement nommé Madame Elisabeth Domitien à ce poste. Et depuis 1975, plus rien. Plus rien du tout. Et donc, les jeunes et les femmes sont tenus à l'écart des vraies instances dirigeantes du pays. Aujourd'hui, il est temps qu'on fasse confiance à la jeunesse. Mais en même temps, il ne faudrait pas que les jeunes attendent que ce soit les vieux, entre guillemets, qui viennent les chercher dans les quartiers, qui viennent les chercher, c'est pas moi, dans leur service, pour les nommer à tel ou tel poste. Il faudrait que les jeunes qui ont des ambitions politiques, hein, parce qu'on ne force pas quelqu'un à être, c'est pas moi, à devenir un homme politique. Il faudrait que, comme l'a dit Christian Guillemin, les gens sortent de leur cachette.
Au lieu de
chercher à critiquer tout le temps les hommes politiques, il faut qu'ils sortent eux-mêmes, qu'ils fassent leurs preuves, qu'ils se lancent en politique. Ceux qui ont des ambitions, qu'ils se lancent en politique, qu'ils aillent aux élections et qu'ils se fassent élire. Et c'est comme ça que petit à petit, de façon massive, les jeunes peuvent investir les différentes institutions, parlement, gouvernement, etc., et agir en groupe. Et moi, je considère que pour arriver à un changement, il faudrait une dynamique collective. Un jeune, deux jeunes, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait plusieurs jeunes. Par exemple, en 2021, je ne sais pas si c'est un appel que je lance, il faudrait qu'il y ait plusieurs jeunes qui se lancent en politique en 2021, qu'ils aillent aux élections de façon massive dans les différents partis politiques, qui se lancent. Et après, s'ils gagnent les élections, ils vont à l'Assemblée nationale, ils vont peser lors du débat. Et c'est comme ça qu'ils vont influencer le changement.
Merci, docteur Irénon. Monsieur Christian Guinebem, aujourd'hui, il faut lancer les jeunes. Il faut qu'eux-mêmes, ils sortent de leur carcan pour pouvoir s'intéresser à la politique. Mais s'il existe au jour d'aujourd'hui des leaders courageux, parce que c'est de cela qu'il est question, des leaders vraiment courageux, déterminés, qui ne sont pas encore très corrompus par l'ancien système là, pour pouvoir relever ce défi.
Il existe des jeunes leaders, des leaders femmes également, pour emboîter le pas au docteur Irénon, courageux et pas du tout encore corrompus par l'ancien système, parce que vous dites pas tout à fait, non, pas du tout. Et je pense pour ma part que nous trois ici autour de ce micro, nous en sommes déjà un exemple. Regardez, nous n'appartenons pas à la génération post-indépendance. Regardez, nous n'appartenons pas à ceux qui ont géré le pays jusque dans les années récentes. Nous sommes en train d'investir la sphère politique, nous sommes en train d'investir l'espace public et nous demandons aux autres de s'engager. Parce que Guinebem plus Irénon plus Blagué, c'est largement insuffisant pour insuffler le changement. Et insuffler le changement, ce n'est pas que par les leaders, ce n'est pas que par les hommes politiques ou les femmes politiques courageux, mais c'est aussi par ceux qui, dans les quartiers, avec qui nous échangeons, et qui soutiennent nos points de vue, qui avancent le même discours que nous, mais le jour du scrutin, ils votent pour les autres. Il y a ça aussi. Quand on parle de renouvellement, le renouvellement s'opère aujourd'hui dans un pays comme le nôtre par la voie des urnes.
Absolument.
La voie des urnes, mais c'est le peuple. Mais quand ce peuple-là est appelé à voter, pour qui vote-t-il? Je vais vous donner un exemple simple. Récemment, nous étions à un atelier sur l'avant-projet de code électoral. Étant donné que vous savez que le processus électoral, c'est quelque chose de continu, donc là, les enseignements des dernières élections ont été tirés. Il fallait mettre en place les nouveaux mécanismes qui doivent nous conduire aux prochaines élections, dont la relecture du code, parce que certains éléments de l'ancien code avaient été définis dans le temps pour ne pas être répétés après la crise que nous venions de vivre. Donc il y avait des dispositions particulières qu'il fallait d'abord élaguer et ensuite insérer des nouvelles modalités là où il y avait lieu. Une des nouvelles modalités qui pour le moment est en discussion, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, je ne vais pas vous donner les détails, mais doit favoriser l'élection des femmes au Parlement. Aujourd'hui, il y a, à tout casser, sur les 140 députés, une dizaine de femmes députées. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup.
Pas beaucoup.
On a adopté la loi sur la parité en République centrafricaine qui dit qu'à terme, il devrait y avoir 50% d'hommes, 50% de femmes, aussi bien dans les instances nominatives que dans les instances électives. Il a été décrété une période probatoire de 10 ans pour permettre justement à l'État de s'organiser par la formation, l'éducation des jeunes filles, des femmes, etc., pour leur permettre justement d'accéder au niveau requis pour occuper toutes les fonctions. Parce que vous savez que notre système n'a pas été fait de telle sorte qu'il favorise l'émancipation des femmes. Donc on a laissé à l'État 10 ans pour se corriger. Mais pendant cette période de 10 ans, on a mis un niveau minimum de 35%. C'est-à-dire que si on ne peut pas atteindre les 50%, il faut qu'il y ait au moins 35%. Donc,
c'est déjà un grand pas.
C'est déjà un pas. Mais quand tout cela ça a été dit, et quand on a fait le débat sur comment faire pour que les femmes soient plus représentées, mais moi, j'étais président d'une commission pendant l'atelier et j'ai dit, mais le premier pas, c'est d'abord que les femmes soient candidates. Parce que si elles ne sont pas candidates, on ne pourra pas fabriquer des femmes députées. Le second pas, c'est que mais même les femmes électrices votent aussi pour des femmes. Voilà, aujourd'hui, nous avons, en termes de statistiques, 50,2% de la population centrafricaine, c'est des femmes. C'est-à-dire que les femmes représentent la majorité. Mais c'est cette même majorité qui vote pour les hommes. C'est cette même majorité aussi des jeunes électeurs qui votent pour les anciens. Ils ne votent pas pour leurs frères jeunes. Les femmes aussi ne votent pas pour leurs sœurs. Et donc nous sommes dans un système où, quand vous parlez de renouvellement, ce n'est pas seulement l'émancipation ou l'émergence de nouveaux leaderships, qu'ils soient féminins ou jeunes, mais aussi que l'électorat suive le mouvement du renouvellement. Ouais. Parce qu'il y a aussi cet aspect qu'on a tendance à vouloir oublier. Vous avez posé la question, est-ce qu'il existe des hommes politiques, est-ce qu'il existe des leaders? J'ai dit
des
oui.
Leaders.
La réponse est oui. Et vous verrez que dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, nous aurons encore l'émergence de nouvelles personnalités. Nous échangeons avec des amis. Nous savons qu'il y a des initiatives en cours. Mais nous ne pouvons pas parler à leur place. Mais nous savons qu'il y a des choses en cours. Mais nous appelons aussi l'électorat à accompagner le mouvement de renouvellement.
Mais nous encourageons ces nouveaux leaders-là à se dévoiler,
mais
à se faire connaître au
public. Je dis que ici, il y en a autour de la table. Je ne serais pas surpris qu'à mes côtés, en 2021, siégeant à l'Assemblée nationale, les deux personnalités qui sont ici figurent également au sein de ceux qui sont à l'hémicycle.
Pourquoi pas? Merci, M. Christian Guénébé, M. Carlo Blagué. Aujourd'hui, hein, nous avons écouté Dr. Irelon tout à l'heure dire que l'aboutissement d'un pouvoir, c'est le résultat. Tout pouvoir est, j'allais dire, jugé sur la base des résultats des actions qu'il pose. D'aucuns disent qu'en dehors de l'ex-empereur Jean-Bidel Bokassa, aucun président ne s'est vraiment investi à fond pour la reconstruction véritable de ce pays. J'entends la République centrafricaine. Partagez-vous cet avis?
Non, pas à 100%, Hippolyte. Il y a eu le président Bokassa qui a eu aussi ses tares et ses casseroles, malgré qu'il était un peu inspiré et qu'il a un peu construit par rapport au contexte qui était stable. Et quand il s'est tourné vers l'Est, hein, par rapport à son frère Ceausescu avec l'ex-URSS, mais c'est, parmi ses successeurs, certains ont eu leurs défauts, mais aussi leurs qualités. Je pense que si la RCA s'était arrêtée à l'époque Bokassa 79, après 79, il y a eu des structures, il y a eu des infrastructures qui ont été construites, je pense, en tant que centrafricain. Je pense qu'on était un peu gosses. Oui, mais les successeurs de Bokassa ont quand même fait au niveau des institutions de la République, au niveau de la démocratie.
L'hémicycle de l'Assemblée, ça a été construit après Bokassa.
Bien sûr, c'est la Corée.
Président Kolimba.
Oui, bien sûr, c'est la Corée, l'Assemblée nationale, l'hôpital communautaire, l'hôpital de l'amitié, ainsi de suite. Donc je pense que si l'histoire politique de la RCA devait s'arrêter à 79, je pense qu'on n'aurait pas certaines structures actuellement.
On n'aurait pas de stade, on n'aurait pas d'hôpital à Bimbo.
Bref, de deux, au niveau institutionnel aussi, au niveau institutionnel. Je pense que la plupart, certains successeurs de Bokassa ont fait avancer les mécanismes institutionnels et surtout les mécanismes de démocratie. Je pense que maintenant on peut critiquer le chef de l'État, il y a la presse, vous existez. Je ne pense pas qu'une radio Ndekelo aurait existé au temps de l'empereur Bokassa. Je suis pas sûr. Donc il faut quand même reconnaître au successeur de Bokassa un petit effort.
Ok, merci. Mais
sur cette question.
Oui, Christian Guénemer.
Moi, je le dis. Le président Bouzizé, il a ses partisans, il a ses adversaires, il a ses qualités, il a ses défauts. Mais il y a une chose qu'on ne pourra pas lui enlever. C'est qu'aujourd'hui, de manière certaine, la République centrafricaine produira son pétrole. Moi, je me souviens, pendant la fin des années 90, début des années 2000, on nous disait « Oui, il y a du pétrole en Centrafrique. Non, il n'y en a pas. » C'était une question même parfois taboue et c'était quelque chose de flou. D'aucuns diront que oui, je prêche pour ma paroisse, même si ce n'est pas faux. Mais en réalité, il a engagé un processus qui aujourd'hui est devenu irréversible. On aura du pétrole en Centrafrique, oui, le pétrole est localisé.
Oui, si vous voulez bien, parlons du président, justement du président Bouzizé. Il y a quand même une question, on a dit la RCA est aujourd'hui l'image d'un grenier où le président qui accède au pouvoir, il déverse les siens, il pille longtemps et après ils s'en vont. Et
oui, référence ceci étant dit, vous voulez dire que le président Bouzizé a déversé les siens qui ont pillé le grenier Centrafrique? Non, c'est pas sérieux.
C'est pas moi qui le dis.
Mais c'est pas sérieux. Ouais. C'est pas dit de manière sérieuse, ça. En tout cas, j'espère qu'on est dans la boutade. En réalité, nous avons constaté que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a embourgeoisement dans les entourages des différents chefs d'État. Ce n'est pas propre au président Bouzizé.
Non, bien sûr. Le régime de Patassé, nous avons connu ce phénomène-là.
Non,
le régime de Kolingba aussi, nous l'avons connu.
De tout temps, ouais. Nous l'avons connu. Aujourd'hui, le problème, c'est que, comme je l'ai dit, les temps changent. Et ça aussi, ce sont des pratiques qui sont appelées à changer. Quand on veut aujourd'hui être dirigeant, quand on aspire aux plus hautes fonctions, et on doit forger une vision de bonne gouvernance. L'enrichissement, l'embourgeoisement, mais c'est l'objectif recherché par tout le monde. Pourvu que cela soit fait par des voies légales, pourvu que ce ne soit pas par les deniers de l'État, pourvu que ce ne soit pas par l'abus de position dominante. C'est pour ça que je disais, former une nouvelle ambition, former une nouvelle vision et réformer les mauvaises pratiques de gouvernance. Vous verrez que, curieusement, quand la SELEC a appris le pouvoir le 24 mars, le discours était « Oui, Bouzizé a marginalisé notre région, etc. Bouzizé a mal dirigé la République centrafricaine, mauvaise gouvernance ». Au fur et à mesure que les années passent, et au fur et à mesure qu'on va de dialogue en fora, etc., et que maintenant on est sur la question de l'initiative africaine, vous verrez que les positions se sont affinées. Et vous vous rendrez compte que, en premier lieu, des revendications, notamment de l'ex-Séléka, parce que les documents sont sur Internet, je vous invite à les lire, la question de la bonne gouvernance figure en premier lieu. La question de la décentralisation, la question de redistribution des richesses, notamment de ce fameux pétrole dont nous parlions. Quelle est la péréquation entre la part de l'État et la part qui doit servir à développer les régions dont sont originaires les richesses qui contribuent au développement national? Donc, on ne peut plus aujourd'hui parler de gouvernance ou parler de renouvellement de la classe politique ou parler de nouvelles visions sans parler d'idées neuves et de changement de paradigme, comme le disait le docteur Erénon, de changement de mécanisme de gestion. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que toute personne ou toute personnalité qui viendrait sur ces points avec un discours ambigu, le mécanisme de rejet que la population a aujourd'hui quand elle réclame le changement, mais ce mécanisme de rejet s'appliquerait aussi à cette personne. Et c'est ça le signe que les choses ont changé.
Merci Christian Guénemer. Nous avons largement dépassé le temps de cette émission. Nous allons déjà terminer le débat. Docteur Désiré Erénon, aujourd'hui, il y a une tendance qui monte dans la classe politique, c'est l'inacceptation des opinions opposées à la nôtre. Aujourd'hui, l'adversité politique devrait-elle être un désavantage ou plutôt un atout pour tout régime démocratique? Alors, si oui, pourquoi alors en vouloir à ceux qui ont des opinions différentes des nôtres?
Mais en démocratie, vous savez, il n'y a point de démocratie sans adversité. La démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la compétition. Et là où il y a compétition, il y a adversité. Et pour moi, l'adversité politique, c'est plutôt le symbole de la vitalité de la démocratie. Une démocratie n'est vivante que lorsqu'il y a une certaine adversité politique. Mais je dis politique, hein, pas une adversité, de façon méchante ou violente. Non, l'adversité politique, c'est pas l'animosité. L'adversité politique, c'est la vitalité de la démocratie. C'est même nécessaire. Si vous vous dites démocrate et que vous ne voulez pas avoir en face de vous des gens qui critiquent vos idées ou bien qui critiquent vos opinions, eh bien, vous n'êtes pas fait pour la démocratie. Laissez la place à d'autres. Et en République centrafricaine, je pense que notre classe politique est aussi caractérisée par une certaine haine viscérale des uns envers les autres. Il est temps aujourd'hui qu'on mette un terme à cela. Et c'est ça aussi la question du renouvellement de la classe politique. Ça passe aussi par ça.
Bien sûr.
On veut aujourd'hui des hommes politiques qui ne soient plus enfermés dans des clivages traditionnels, qui considèrent que moi, je suis de
tel parti, FPP, KNK, MDD, MLPC,
ou de telle région.
Je ne peux pas du tout aller serrer la main à celui qui est dans un autre parti politique au risque qu'on me considère comme un traître ou bien que je suis de mèche avec tel ou tel. Non, nous sommes tous des républicains. Les partis politiques, c'est des trucs légaux. Et on doit accepter la différence. Et quand on accepte la différence, ça veut dire qu'on a des gens qui sont différents de nous, qui sont de l'autre côté, qui ont des opinions différentes des nôtres. Et cela ne fait pas de nous des ennemis. Moi, je dois pouvoir aller chez Guénémem. Guénémem doit pouvoir venir chez moi et Renon. Je dois pouvoir aller chez Hippolyte ou chez Karl. Et on peut discuter, même si on sait qu'on n'est pas du même bord politique. Et ça manque aujourd'hui à la démocratie centrafricaine.
Et c'est un problème.
C'est un véritable problème. Il faudrait qu'on arrive à casser cela. Merci. Moi, je suis pour que ces barrières-là soient cassées, que ces clivages soient cassés. Et justement, c'est ce qu'on reproche toujours à l'ancienne génération. On a vu des hommes politiques phares de ce pays-là. Je prends l'exemple, Abel Goumba et David Dacko. Ils ne se sont parlé qu'à l'occasion du dialogue de 2003 organisé par le président François Bodizé, grâce à l'initiative de Madame Samapaza. Tout le monde le sait. C'est elle qui a réussi à obtenir une poignée de main entre Abel Goumba et David Dacko. Parce qu'ils avaient une haine viscérale l'un envers l'autre. Et il faudrait qu'aujourd'hui, si nous voulons arriver à un renouvellement de la classe politique, il faudrait aussi qu'on arrive à changer cette pratique-là. Et ce comportement politique, il n'est pas sain. Ce comportement politique, il est nuisible. Il est nuisible, il est nocif pour la démocratie. Mmh. Et je voudrais profiter pour lancer un appel. C'est qu'aujourd'hui, on parle de renouvellement. Il faudrait que les jeunes saisissent cette occasion pour comprendre que l'état du pays aujourd'hui, si on évalue l'activité politique dans ce pays, eh bien, on constate qu'il y a nécessité, pas un simple besoin, il y a nécessité de parvenir à un changement. Et ce changement-là ne doit pas se faire contre une certaine catégorie. Ce changement doit se faire par la jeunesse, par les femmes, par l'ensemble du peuple, mais pas contre une certaine catégorie. Parce que si on veut faire le changement contre une certaine catégorie, eh bien, on va radicaliser, on va braquer les gens, on va les radicaliser et le changement ne sera pas possible. Et plutôt que d'un changement, on va se retrouver dans un trouble. Moi, je ne suis pas pour qu'on parle de renouvellement et puis qu'au final, qu'on se retrouve dans un trouble. Il faudrait qu'il y ait conciliation entre les objectifs recherchés et les exigences de paix, de tranquillité, de l'ordre public dans le pays.
Merci, docteur Dominique Désiré Irénan. Fin de ce débat Patara sur Radio Ndekeluka. Merci à vous, Christian Guénébem, secrétaire national aux relations extérieures et porte-parole du KNK. Merci à vous, monsieur Karl Blaguet, sociologue, observateur de la vie politique centrafricaine. L'émission Patara, aujourd'hui, je le rappelle, est consacrée à la problématique du renouvellement de la classe politique en Centrafrique. Herman Ambona, à la technique, Hippolyte Marbois, l'animation, vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre thématique. We'll be right back.